L'exemple de cultiver l'espoir est remarquable. À la base, il a fallu une volonté politique pour maintenir et développer une production maraîchère dans l'ouest de l'île de Montréal. Il a aussi fallu une conception d'ensemble d'un projet encore plus vaste dans lequel plusieurs vocations se côtoient et se complètent. Je me suis entretenu avec la grande responsable de Cultiver l'espoir.
Sylvie Rochette, cofondatrice et directrice générale Regroupement Partage pour Cultiver l'espoir.
Commençons par Regroupement Partage. Qu'est-ce que c'est?
En fait, Regroupement Partage est un organisme montréalais au niveau régional qui travaille à contrer l'insécurité alimentaire, donc la lutte à la pauvreté, à travers trois programmes. On a Opération Sac à dos à la rentrée scolaire, où on travaille avec les jeunes pour s'assurer que les jeunes puissent rester sur les bancs d'école, parce que peu importe dans le milieu dans lequel tu viens, chaque jeune a le droit de se réaliser, et les jeunes, c'est notre avenir aussi. Donc, on doit s'aider ces jeunes qui viennent de milieux appauvris. On a aussi à la période de Noël, donc on se sert de la période de Noël pour amener les gens vers nous, mais vers le réseau d'entraide locale aussi pour travailler les problèmes qui ont amené les gens à la pauvreté, mais aussi les problèmes que la pauvreté a amené à ces gens-là. Et notre force, c'est de travailler multi-réseau avec différents partenaires qui ont différentes expertises, donc on peut intervenir auprès de ces familles-là. Et on a aussi le programme là, Cultiver l'espoir.
Justement, ce dernier programme, Cultiver l'espoir, c'est quelque chose d'assez ambitieux, mais ça va bien jusqu'à maintenant?
On a eu des défis, mais je vous dirais que ça va très bien. C'est ambitieux, oui, par sa grandeur, par son innovation, parce qu'on est en économie circulaire, parce qu'on développe, parce qu'on défriche partout, c'est nouveau. Mais c'est un projet qui a de l'avenir, c'est un projet qui tient la route, c'est un projet qui va très bien et c'est un projet qui prend de plus en plus d'expansion chaque année. Et c'est une nouvelle sorte d'approvisionnement durable aux besoins des banques alimentaires aussi, mais aussi des Montréalais dans le besoin, là, qui ne peuvent pas s'alimenter correctement trois fois par jour, là, 365 jours par année.
On a entendu parler du grand projet dans l'ouest de l'île de Montréal. Le Grand Parc ou les Grands Parcs de l'Ouest à Montréal, est-ce qu'on peut dire que vous êtes intégré à ce grand projet-là plus vaste?
Oui, tout à fait. On est déjà dans le secteur. Donc, nous, nos terres sont situées à Sainte-Ville. On est sur des terres qui appartiennent à la ville de Montréal, mais dans la municipalité de Sainte-Ville. Et ces terres-là, ça s'appelle le bois de la Roche. Et ce bois de la Roche-là fait partie des Grands Parcs de l'Ouest, comme fait partie le Cap-Saint-Jacques aussi, et tout le boisé environnant. Donc, c'est énorme, mais c'est sûr qu'il y a une partie de ça qui est de l'agriculture là, dans le parc, Grand Parc de l'Ouest. Et c'est le regroupement avec Cultiver l'espoir là, qui est un des chefs de file avec la ferme des Trois-Pierres en agriculture.
Par extension, on peut dire que c'est un élément de l'agriculture urbaine à Montréal.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce ne sont pas des jardins communautaires, ce ne sont pas des jardins de quartier. C'est vraiment une ferme de production. Et ce qui est magique, c'est qu'on diversifie les choses et on répond à différents besoins. Les jardins communautaires vont répondre à des besoins au niveau du citoyen de proximité. C'est un service de proximité où il apprend à cultiver ses légumes et il apprend aussi à aimer jardiner puis à s'alimenter. Mais il y a aussi tous ceux qui ne peuvent pas le faire, bon, vont être desservis via les banques alimentaires peut-être et via par Cultiver l'espoir. Il y a différentes façons dont on doit donner une réponse à l'insécurité alimentaire et Cultiver l'espoir en est une parmi d'autres.
Donc, vous avez un agriculteur associé à vous qui s'occupe, si on veut, de l'opération comme telle sur la terre, dans les plantations. Vous, vous supervisez tout ça et vous organisez tout le réseau que ça implique. Là.
Oui, en fait, tout à fait. Le regroupement partage là-dedans est le maître d'œuvre, donc le penseur du projet. C'est lui qui l'a mis sur pied, tout ça. Mais on travaille en économie circulaire. Ça veut dire que, par exemple, la Ville de Montréal met à notre disposition des terres agricoles jusqu'à 27 hectares. Il y a également aussi les Trois-Pierres avec qui on travaille, qui est un organisme, un OBNL en agrotourisme qui a l'expertise en agriculture, donc qui fait notre production agricole. On s'assoit avec lui, on planifie, on travaille de collaboration ensemble. On utilise sa machinerie, il utilise notre machinerie qu'on achète pour ses propres besoins. Et il fait tout le conditionnement des légumes, c'est-à-dire le lavage, l'ensachage. On travaille aussi avec une entreprise privée pour le transport des légumes vers les entrepôts de chez Metro. Et Metro, qui a toute l'expertise nécessaire, les ressources matérielles, humaines nécessaires pour le faire, va acheter une partie de notre production, 45 % de notre production, et va pouvoir le vendre à la population en notre nom. Donc, comme ça, on maximise les ressources financières, les ressources matérielles, on va minimiser les coûts et on va s'assurer que le projet va fonctionner parce que 45 % de notre production est vendue pour assurer un financement à long terme du 55 % de la production qu'on redonne à la population. Donc, un projet novateur par l'économie circulaire, par la dimension, par l'ampleur, mais aussi parce qu'on vend une partie de légumes et qu'on va s'autofinancer à long terme.
Oui, justement. éventuellement, vous prévoyez peut-être que dès 2023, vous serez capable de vous autosuffire financièrement?
Nous espérons être en 2023 si la température nous est clémente. Et on a eu quelques enjeux avec la température chaque année, donc que ce soit les inondations, la maladie, la faune, la sécheresse. Donc, c'est ce qu'on avait visé. Soyons réalistes. S'il faudrait qu'il fasse beau tout le temps, est-ce que c'est la réalité? Je ne crois pas. Mais il faut toujours avoir un objectif. Notre objectif, c'est l'autofinancement en 23.
Les inondations, bien sûr, vous êtes dans l'ouest de l'île et l'eau a monté à quelques reprises, 2 ans de fil. Là.
Oui, tout à fait. Ça, en fait, ce que ça a eu comme impact, c'est que ça retarde les semis parce qu'on ne peut pas rentrer avec la machinerie dans les terres. Les terres sont gorgées d'eau, donc la machinerie s'enlisserait dans les terres. Mais également aussi, si on se met trop tôt puis que la terre ne serait pas dégorgée de son eau, bien, les semences pourriraient très, très rapidement puis on perdrait. Mais il y a également aussi, on a perdu une partie de notre machinerie, c'est-à-dire où est-ce que nos tottes, où est-ce qu'on emmagasine nos légumes pour pouvoir les vendre, qui ont été contaminés par l'eau. Maintenant, on a des tottes en plastique recyclable qui sont bio également. Donc, on apprend, on se bonifie. Mais comme je vous dis, on est toujours répondant de ce qui se passe au niveau météo. On ne peut pas contrôler ça et il faut composer avec.
On a beau être sur l'île de Montréal, vous avez des amis un peu sauvages, si on veut, de la faune. Les chevreuils pensent que c'est pour eux que vous cultivez des carottes.
Eh oui, c'est ça. Mais ça fait partie de l'agriculture également. Donc, on a eu à ça. On a eu aussi avec les goglus, la protection du goglu, qui est un oiseau qui est dans l'ouest de l'île, à composer avec ça. Mais on a aussi les chevreuils. On a appris, on a maintenant des clôtures pour protéger nos cultures sans que ces clôtures-là empêchent le chevreuil de pouvoir progresser ou de pouvoir se développer. Ça n'empêche pas le chapelle de se développer. Ça empêche cependant le chevreuil de venir manger nos belles carottes, nos beaux rutabaga, choux et betteraves.
Quelqu'un suggérait tantôt que vous pourriez avoir quelques coyotes qui s'occuperaient de la surveillance.
Mais il y a déjà des coyotes à Montréal, mais les coyotes, on sait que c'est lié aussi avec la rage. Il faut faire attention quand même, et c'est beaucoup plus facile de contrôler avec les clôtures et maximisons nos chances de pouvoir redonner davantage de légumes à la population.
Justement, là, on parle de choses anecdotiques, mais la mission, donner de bons légumes à des gens qui en ont besoin et étendre le plus possible. Vous souhaitez prendre encore de l'expansion avec ce service-là?
Oui, tout à fait. Écoutez, l'année dernière, en 2019, on était à 6,5 hectares. En 2020, on va avoir 9 hectares et on espère monter comme ça jusqu'à 20 ou 21 hectares pour pouvoir avoir le nombre d'hectares en rotation toujours. Et quand on sera à terme, là, ça va être entre 40 et 45 terrains de football qui seront en production. Là, l'équivalent de terrain de football en production, ça veut dire que c'est une partie du Mont-Royal.
Et donc, encore une fois, tout ça sur l'île de Montréal?
Tout ça sur l'île de Montréal. Ça existe, l'agriculture à Montréal, mais le défi de l'agriculture à Montréal, c'est qu'on n'est pas en zone agricole. Alors là aussi, on a des défis. Et notre prochain gros défi, puis là, je lance un appel à l'aide, c'est d'avoir un entrepôt. Donc, on aura besoin de partenaires au niveau du bâtiment, au niveau de la réglementation, au niveau des matériaux, où on aura à construire un entrepôt de proximité pour pouvoir, comme tout grand producteur à grande échelle, pouvoir entreposer nos légumes, pouvoir faire le traitement de nos légumes, mais aussi pouvoir entretenir notre machinerie, l'entreposer et notre matériel agricole également.
Madame Rochette, merci beaucoup.
Merci.
Ici Lionel Levac. Bientôt, je vous présenterai un autre reportage sur le thème de l'agriculture urbaine. Au revoir.